Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon midi à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire qui s'amorce alors que je perds mon co-animateur Alex qui est occupé à gérer la station pendant le temps. Donc, c'est ça. Ce sera moi aujourd'hui pour vous parler de quelques nouveautés cinématographiques qui ont pris l'affiche beaucoup cette semaine, mais aussi la semaine dernière parce que j'ai pu faire un peu de rattrapage en début de semaine pour aller voir Civil War notamment, le nouveau long métrage de Alex Garland. Je vais en parler dans quelques instants, mais aujourd'hui à l'émission, c'est ça, on va parler de beaucoup de films. On va parler de Festin Boréal. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais là, il fait officiellement sa sortie à la Maison du cinéma, donc je pourrais peut-être redonner une version légère de mes impressions pour vous inciter à aller le voir. On va parler également attendez un petit peu, La promesse d'Irena ou Irena's Vow, le nouveau film anglophone de Louise Archambault avec Sophie Nélis. Voilà, on va parler, je vais revenir encore un petit peu là, sur Soleil Atikamekw qui lui aussi fait sa sortie. Même si j'en ai parlé là, il y a deux semaines et qu'on s'était entretenu avec la réalisatrice Chloé Leriche. Il y a aussi, finalement, on en a parlé aussi la semaine dernière, The Old Oak de Ken Loach. Je ne reviendrai pas nécessairement dessus, mais il fait sa sortie en fait à la Maison du cinéma ce week-end. Il y a aussi Une année difficile qu'on a mentionné hier. Tous les films, la semaine dernière, tous les films dont on a parlé la semaine dernière, finalement, sortent cette semaine. Sauf le dernier, en fait, et non le moindre, Ama Gloria, qui a gagné, en fait, le Cercle d'or meilleur film de fiction au FCMS, là, remis par Pierre Curzi et son jury dimanche dernier. Donc, je l'ai vu. Je vais vous donner mes impressions dessus. Vraiment un très, très bon film. Et puis sinon, je veux vous parler également du documentaire Malartic qui était présenté au FCMS, mais qui est disponible ou qui va être disponible bientôt, je crois, sur le site de l'ONF. J'ai visionné aussi La Bête de Bertrand Bonello, mais la sortie a été repoussée à la semaine prochaine, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vais commencer tout de suite, c'est ça, avec la fausse nouveauté. Donc, Civil War d'Alex Garland, que j'ai eu la chance de voir dans la salle luxe ici. Donc, c'est quand même un film à grand déploiement, même si c'est un film qui n'a pas nécessairement un gros budget. C'est quand même une sortie relativement attendue. Alex Garland, c'est le réalisateur et scénariste britannique qu'on connaît pour surtout Ex Machina, Annihilation. Son dernier film avant Civil War, c'était Men, qui est passé un peu sous le radar, mais c'est aussi le scénariste de 28 Days Later. C'est son quatrième long métrage. Peut-être son dernier. Je pense qu'il y a des propos hors contexte qui ont, comme annoncé prématurément sa retraite. Là. Il a dit qu'il ne se voyait pas réaliser un autre film bientôt. Puis les médias, évidemment, se sont enflammés. Là, après ça, il a corrigé le tir. Il a dit non, c'est juste parce que là, j'ai pas de projet dans les mains pour l'instant. C'est ça, il y a quand même une très bonne feuille de route. Et ce film-là, se veut, en fait, une représentation des États-Unis en pleine guerre civile, en fait. On sait que le pays est très polarisé, évidemment, là, depuis les dernières années. Et puis là, on suit un groupe de journalistes de guerre là, qui est composé de quatre journalistes, qui sont interprétés par Kristen Dunst, Wagner Moura, Kayleigh Spaney et son nom m'échappe, attendez, Stephen McKinley Anderson. C'est ça, on suit ces quatre journalistes-là là, qui font le chemin entre New York, qui est une ville où là, ça commence à être chaud, et DC, donc Washington DC, qui est évidemment le berceau de la Maison Blanche, et qui est Maison Blanche, en fait, là, qui tient en son sein un président fasciste qui est joué par Nick Offerman, hein, pourquoi pas. Et donc, c'est ça. Donc, eux, ils veulent aller plus qu'au front parce qu'il y a le front autour de DC, là, pas loin de la Virginie occidentale, là, si je ne m'abuse, ou la Virginie. Il y a le front où il y a vraiment... des conflits armés, mais eux veulent vraiment aller faire une entrevue avec le président avant qu'il capitule, essentiellement. Donc, on les suit faire ce road trip-là qui est évidemment dangereux parce qu'on on est un peu comme dans Walking Dead sans les zombies. Là, évidemment, tout l'arrière-pays américain est anarchique et puis les routes sont barrées, les autoroutes sont barrées. Il y a des groupes de guérilla ici et là. Donc, on les suit, c'est ça, à travers leur périple dans l'Amérique semi-profonde, si on veut. Et donc... c'est ça, ça continue un peu la tendance qu'a Alex Garland à parler d'Amérique dystopique ou de problèmes liés avec soit des préoccupations avec le futur et tout. Donc, ce à quoi il nous avait habitués, là, avec Annihilation et Ex Machina. Bon, d'entrée de jeu, j'ai quand même aimé ça. J'ai quand même vraiment apprécié mon expérience, même si je crois que... c'est un peu vide comme scénario, là. Je sais pas si c'est la façon dont on l'a vendu. Je sais pas si c'est peut-être l'approche trop classique ou... je sais pas trop, mais bref. J'ai passé vraiment un bon moment, mais c'est ça, j'avais de la difficulté à voir un peu les messages qui sont envoyés. Ou tu sais, c'est rien que je ne peux pas m'imaginer sur la vie d'un reporter de guerre, là, surtout quand on a vu le documentaire 20 jours à Mariupol, là, qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire il y a quelques mois. C'est ça, on le sait, une zone de guerre, c'est toujours très problématique. Les journalistes, probablement, je sais pas si... l'idée du film lui est venue là, de quand il y avait les mouvements Black Lives Matter dans le Midwest américain, et puis que là, un journaliste s'était fait arrêter en direct à la police, puis que là, ça l'amenait à réfléchir un peu sur la condition des journalistes de guerre. Je pense quand même qu'on prend leur position, même si moi, ben, à certains moments, je me demandais, OK, est-ce qu'on est contre quand même cette pratique-là, là, de l'espèce de passe-droit qu'on donne à des journalistes qui, oui... c'est important de documenter ces événements-là, mais on s'entend que il y a peut-être des journalistes qui le font pas pour les bonnes raisons ou qui cherchent la photo choc là, qui va choquer le monde, justement. Tu sais, c'est l'objectif derrière peut-être ces journalistes-là, des fois, qui est problématique. Je me demandais si ça allait être une critique de ça. Bon, on l'effleure peut-être un petit peu sans vraiment trop se positionner, à mon avis. Là. Peut-être qu'on aurait pu assumer à fond un côté ou l'autre, mais bref, c'est ça. Moi, à chaque fois que je vois des reporters de guerre, ou tu sais, pas juste même des reporters de guerre, mais tu sais, des journalistes qui sont envoyés dans des situations où ils devraient pas être là, genre, t'envoies quelqu'un en plein milieu d'un ouragan juste pour avoir un plan d'elle ou de lui qui a les cheveux dans le vent puis qui a de la pluie d'en face. Ça sert pas à grand-chose, à mon avis. T'apprends pas grand-chose de plus que ce à quoi tu t'attends. Bon, il y a quand même certaines exceptions, là, surtout, par exemple, quand je reparle du documentaire là, 20 jours à Mariupol, ben là, c'est comme un blocus russe. C'est des nouvelles qui nous parviennent peu ou pas, ou souvent tronquées. Donc, c'est important d'avoir une certaine liberté journalistique à ce niveau-là. Bon, là, dans le contexte du film Civil War, ben c'est ça, les mouvements, évidemment, fascistes sont très contre les journalistes, et puis ils se font tirer à vue, essentiellement, alors que le mouvement, je crois que c'est le Western Front, qui se veut un peu, qui veut restaurer un peu les États-Unis d'avant et puis qui protège un peu là, les journalistes. Bref, c'est ça. Donc, on les suit à travers, c'est comme un mélange, c'est ça, de films, de road trip, à la fois petit récit initiatique là, parce qu'on suit Kristen Dunst qui a quand même beaucoup d'expérience, qui est une photographe bien connue, mais elle prend un peu sous son aile et contre son gré Jessie là, qui est une jeune journaliste qui veut faire ce que Kristen Dunst fait dans la vie. C'est ça. Puis à la fin, mais ça vire un peu en une espèce de film pas procédurier, mais tu sais, un peu plus de guerre, là, assez classique, où là, on suit les journalistes dans un conflit armé, et puis on les voit prendre des photos. Je trouvais que c'était peut-être des fois, par moments, un peu anticlimatique, là, ou peut-être un peu moins immersif que ça aurait pu l'être. On sent clairement qu'on veut nous immerger, je sais pas, nous mettre dans la peau de ces journalistes-là alors qu'il y a des tanks puis des fusils qui tirent de partout. Mais c'est entrecoupé aussi de photos qu'il et elle prennent. Et puis, on dirait que ça casse le rythme un petit peu. Là, je trouvais ça un peu particulier comme choix, même si je comprends que, c'est ça, à la base, on suit des photographes, on suit pas des soldats, ou même le conflit. Là, on reste très nébuleux sur les causes du conflit, sur à quel point les États-Unis sont déchirés. La production A24 là, a sorti une carte qui explique un peu là, c'est rendu quoi maintenant les États-Unis puis les différents clans qui existent, sans trop qu'on parle pourquoi notamment le Texas et la Californie sont alliés. Est-ce que ça va faire naître des suites? Peut-être. Surtout que le film a quand même connu un bon succès au box-office. Ça que ce soit un succès fracassant. Là, je pense que c'est autour de 25 millions de recettes, ce qui est le meilleur départ, en fait, de la société de production A24, le meilleur départ de l'histoire, mais aussi depuis Héréditaire de 2018, là, qui était le film qui avait engendré le plus de recettes à sa première fin de semaine. Donc, à voir. C'est probablement pas Alex Garland qui fera une suite, si jamais il y en a une. Peut-être qu'il va l'écrire ou je sais pas, là, mais il la réalisera probablement pas. C'est ça, tu sais. Globalement, j'en sors avec une expérience somme toute positive, mais un peu décevante, juste parce que le film a le potentiel d'être beaucoup de choses ou d'être vraiment... Tu sais, c'est pas le premier film dystopique, c'est pas le premier film sur une guerre civile, surtout pas aux États-Unis non plus, mais... Il y a de quoi d'autre dans ce film-là qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les films plus classiques du genre, mais c'est ça. N'empêche que je ressors de là pas nécessairement marqué, pas nécessairement chamboulé. C'est des trucs qu'on peut s'imaginer dans un futur relativement proche où les États-Unis élisent Trump à nouveau comme président. On n'est comme pas très loin de la réalité, mais il n'y a pas d'image non plus qui nous pousse à... Je sais pas, à constater un peu l'absurdité de la chose ou à nous amener à réfléchir sur « Hey, on veut pas que ça se passe ». Tu sais, on comprend qu'on veut pas une guerre civile ou qu'on veut pas déchirer le pays, mais c'est ça, ça amène rien de plus, ça amène pas d'eau au moulin. Mais ça reste un très bon divertissement, je crois. Et puis, tu sais, tout l'aspect technique est quand même bien réussi, là. C'est ça, résultat, ben pas résultat, mais impression du moins un peu mitigée de mon côté, mais ça reste quand même du bon cinéma. Fait que vous irez voir ça à Civil War de Alex Garland. C'est encore à l'affiche à la Maison du cinéma. Je sais pas si c'est encore dans la salle luxe, mais sinon ça va l'être encore pour quelques semaines. Sinon, on va partir en pause publicitaire, puis au retour, ben je vous parle des autres films dont je vous ai mentionné. Donc Malartic, Irena's Vow, on va parler d'Amar Gloria, puis aussi brièvement mentionné Festin Boréal et Soleil Etc. Québec, restez des nôtres.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son, la réalisation, le montage et la direction photo.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, ben, parlons du nouveau long métrage de Louise Archambault, Irena's Vow, ou Le vœu d'Irena. Une histoire vraie sur... Irena Gut, je crois, qui est, on va dire, une histoire un peu similaire quand même à, par exemple, La liste de Schindler ou c'est quoi donc le film avec Anthony Hopkins qui est sorti plus tôt cette année, One World, One... En tout cas, le titre m'échappe, mais qui est essentiellement là, quelqu'un qui... l'histoire relativement classique là, d'une personne qui va protéger des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une histoire vraie, bien évidemment. C'est... Je sais pas si c'est le premier long métrage anglophone de Louise Archambault. Là. Je sais qu'elle a fait quand même des trucs du côté anglophone ou en tout cas CBC. Ce nouveau long métrage-là pour la réalisatrice là, qui est quand même relativement productive dans les dernières années. Là, elle a sorti Le temps d'un été, pardon, cet été, encore une fois. Là, c'est son deuxième film en 2023-2024. Deuxième film quand même assez rapproché dans une période de 6 mois. C'était arrivé aussi en 2019 où elle avait fait « Il pleuvait des oiseaux » et « Merci pour tout » la même année. Quand même des grosses périodes créatives. Évidemment, le film pour lequel elle est peut-être un peu plus connue, ben, c'est Gabrielle là, qui avait fait quand même parler beaucoup de lui au début des années 2010. Louise Archambault nous revient avec Sophie Nélis et une distribution principalement anglophone là, composée de... Ben, anglophone et polonaise, en fait, composée de Gray Scott, notamment. Bref, on suit Irena Gut, qui est une jeune femme infirmière qui vit en Pologne et qui, au début de la Deuxième Guerre mondiale, se fait... Elle n'est pas juive, là, mais elle se fait affecter aux travaux forcés puisque l'Allemagne, évidemment, va envahir la Pologne assez tôt dans le conflit. Puis là, ses travaux l'amènent à être parfois infirmière, parfois serveuse... serveuse, en fait... pas de nourrice, mais en tout cas, là, préparer des plats ou travailler dans des restaurants ou des camps militaires. Elle va aussi superviser, elle va se faire donner éventuellement la responsabilité de superviser le service de tailleurs là, qui est composé de travailleurs juifs qui, évidemment, ne sont pas tailleurs. Donc, ils doivent faire des uniformes pour les soldats, les militaires. Et elle va finir par se lier d'amitié avec ces personnes-là parce que, évidemment, Irena... outre le fait qu'elle trouve que c'est pas très reluisant là, comme situation de la Deuxième Guerre mondiale, se retrouve un peu, elle aussi, comme les Juifs, à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Donc, elle va finir par orchestrer un petit peu leur échappatoire, si on veut, et les cacher, et les amener éventuellement, parce qu'elle va se faire transférer comme, on va dire, majordome ou comme femme de ménage. C'est pas juste une femme de ménage, là, parce qu'elle s'occupe aussi des repas, mais comme, c'est ça, là, gouvernante, si on veut, là, de la maison d'un soldat, d'un haut placé. Militaire polonais. Et puis, donc, elle va cacher, je crois que c'est peut-être une dizaine là, de couples, de dizaines de juifs, donc à peu près 4-5 couples. Elle va les cacher justement dans le sous-sol de cette maison-là et ils vont travailler de pair là, à ce que le nettoyage soit bon, à ce que les repas soient amples et efficaces et tout ça en camouflant justement ces familles juives-là. C'est ça, histoire assez classique, là, surtout quand c'est très dur d'offrir une histoire telle que celle-ci. Quand il existe déjà peut-être le classique inatteignable du genre, c'est-à-dire la liste de Schindler. Le film est pas sans qualité. Là. Il est très, très bien réalisé, je trouve. Là. Vraiment une très bonne assurance de Louise Archambault à la réalisation. Sophie Nélis aussi est très bonne. Ça ressemble aussi, par la force des choses, un petit peu à... Là, c'est peut-être le retour du balancier, mais à The Book Thief, je crois. Je n'ai pas le titre exact, là, mais c'est un des films qui l'a fait connaître, là, Sophie Nélis. Donc, le film avec la Deuxième Guerre mondiale, où là, c'est elle qui joue une jeune juive. Puis, c'est un livre autour de la littérature et puis des autodafés. Bref, c'est ça. Donc, on est en territoire relativement connu avec cette prémisse-là. Il y a quand même l'histoire d'Irena en soi qui est un peu particulière. Vous irez lire au pire sa page Wikipédia, mais elle est quand même une figure importante. Mais c'est ça, est-ce qu'on est rendu à peut-être... Est-ce que c'est moi qui ai rendu cynique et qui se dit qu'on a eu trop de films de Deuxième Guerre mondiale? Peut-être, là. Je sais pas. C'est ça. Est-ce qu'on a encore besoin d'une histoire comme celle-ci pour nous rappeler que c'était immonde de le traitement qu'on donnait aux Juifs et puis qu'il y avait de ces bonnes personnes ici et là qui les aidaient à survivre? Je sais pas. C'est une question qui se vaut. Je crois que c'est important de mettre en lumière ces personnes-là ou ces actes-là qui ont été accomplis au péril de leur vie. Mais c'est ça, tu sais, en tant que film, on est en territoire un petit peu trop connu, à mon avis. Comme je dis, Archambault fait un bon travail, même de Gray Scott aussi, Sophie Nélis, tout le monde fait bien son travail, mais c'est juste peut-être une espèce de fatigue du genre ou de peu de renouvellement du genre qui fait que, ben, il n'y a rien de vraiment mémorable à ce film-là. Tu sais, je ne veux pas le comparer nécessairement à la Marvel fatigue là, que je vis présentement. Là, tu sais, ah, un autre film de super-héros. Ah, il y a la même trame que toutes les autres. Évidemment, il y a une post-credit scene. Tu sais, quand on tombe dans une espèce de terrain connu ou d'attente qui est créée artificiellement envers le spectateur, ben, tu es comme, ben, je sais déjà à quoi m'attendre. C'est quoi la plus value d'aller voir quelque chose que je connais déjà. Donc, c'est peut-être là où le bas blesse, parce que, tu sais, pour le reste, la musique, je ne l'ai pas mentionné, mais la musique est très, très bonne. Elle est composée par Alexandra Strelitzky aussi. Très, très... C'est ça, c'est un film... Tu vois qu'il y a quand même de l'argent, même si ça reste un film à grand budget canadien, là. Fait que, c'est ça, ça reste un budget relativement limité. Mais tu sens que... C'est ça, tu sais, qu'il y a la direction photo est un peu plus soignée que dans la plupart des films. Tu sens que, c'est ça, sans qu'il y ait des gros décors ou des gros besoins d'accessoires, ben, tu sens que tout est authentique, tout sonne vrai, mais c'est ça. C'est peut-être cette espèce de redondance-là qui fait que qui joue contre le film, malheureusement, puis c'est rien... C'est ça. La faute revient à personne, sauf peut-être à vouloir faire de cette histoire-là un film. Enfin, ça, c'est l'impression que ça m'a laissé. T'sais, je crois que si vous en avez pas tant vu des films de ce genre-là ou que vous aimez les films, soit les biopics ou les films justement d'époque, ben, vous allez trouver votre compte là, parce que ça en est un de très bonne qualité. Mais c'est ça. T'sais, quand on en voit souvent avec le même synopsis, ben c'est ça, ça crée une certaine attente qui est très dure à défaire. Donc, mais je vous invite à aller le voir parce que c'est ça, c'est un film. Puis sur grand écran aussi, je pense qu'il vaut quand même la peine d'être vu. Vous irez voir ça. Donc, c'est Irena's Vow avec Sophie Nélis, un film de Louise Archambault. Ça prend l'affiche ce vendredi à la Maison du cinéma. Je vais enchaîner peut-être avec... Oui, je vais enchaîner avec le gagnant, tiens, du Cercle d'or meilleur documentaire, meilleur long métrage de fiction, pardon. Donc, Ama Gloria. J'ai été quand même surpris de voir que c'est le film qui l'avait remporté parce que bon, il était en compétition contre notamment Godland, là, qui est quand même qui a eu un petit buzz. Là. Il était allé à Cannes, je crois, là, à un certain regard. Il est sur la plateforme Criterion. T'sais, il a beaucoup fait parler de lui dans les derniers mois. Il est également en compétition contre Je verrai toujours vos visages, qui, pour moi, est un des meilleurs films de la dernière année. C'est ça, il y avait de la grosse compétition. Puis là, que de faire gagner ce film-là, dont je connaissais à peu près rien, j'étais comme, ah, ben, OK, c'est audacieux. C'est pas la première surprise au FCMS, mais est-ce que le film vaut la peine ou si, justement, on a voulu mettre en lumière peut-être un film qui était un peu moins connu à travers toute cette programmation-là? Ben, à ma grande surprise, c'est un excellent film. À ma gloria, là, je sais pas si c'est parce que... Ben, évidemment, en tant que... relativement nouveaux parents. Toutes les histoires maintenant là, qui touchent des enfants ou qui concernent une situation qu'un enfant vit ou une relation parent-enfant, ben, ça vient un peu plus me chercher que quand j'avais pas d'enfant et que je comprenais pas cette réalité-là. Et puis c'est un peu ça. Donc, à ma gloria, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cléo, qui a 6 ans et qui... vit avec son père monoparental, donc sa mère est décédée d'un cancer, là, je crois. Et puis, elle vit, oui, avec son père, mais qui travaille beaucoup. Donc, elle vit surtout avec sa nounou, donc qui est Gloria, qui prend très bien soin d'elle, qui vient, je crois, là, je ne sais pas si c'est spécifié ou pas, là, mais je pense que c'est de Cap-Vert, et qui... c'est ça, donc qui s'occupe évidemment de Cléo. Les deux ont une relation, bien évidemment, Cléo voit en sa nounou la figure maternelle qui lui manque. Gloria, elle, vit loin de sa propre famille, donc elle a quelques enfants. Je crois que sa fille aussi attend un enfant, donc elle est sur le point de devenir grand-mère. Donc elle vit loin, elle vit pas dans son pays, elle vit loin de sa famille. Veux pas, elle va prendre un peu sous son aile Cléo, qui est sa fille by proxy, là, sa fille d'adoption. Et puis, il y a un drame qui survient auprès de la famille de Gloria. Sa mère meurt, donc elle décide de revenir chez elle. et de ne pas retourner en France parce que Gloria entretient un projet aussi d'ouvrir un hôtel puis de demeurer en France éventuellement. Elle travaille beaucoup, à Cap-Vert éventuellement. Elle travaille beaucoup justement puis elle investit son argent dans l'ouverture de cet hôtel-là qui est en construction. Donc, elle retourne dans sa famille. Et puis, évidemment, ben, ça crée un immense vide dans la vie de Cléo qui vient de perdre sa figure, vient de perdre une deuxième mère, là, essentiellement. Bon, là, des situations arrivent ici et là. Finalement, elle a réussi à convaincre son père de se faire envoyer chez Gloria au Cap-Vert pour l'été. Et puis, c'est ça, pour, on va dire, un dernier adieu, un dernier long adieu entre Gloria et Cléo, voilà. Donc, ça, c'est la prémisse de base. Il y a vraiment quelque chose qui est venu me chercher, je crois, dans le style de réalisation. Oui, l'histoire est quand même relativement tragique parce qu'au terme de cet été-là, ben, c'est ça. Gloria va rester chez elle, puis Cléo va retourner chez elle. Il va y avoir une coupure éventuellement qui va être extrêmement douloureuse. Oui, cette prémisse-là, à la base, c'est un bon matériel, un matériel un peu déchirant, mais c'est ça, dans le style de réalisation, dans l'approche très intimiste que nous propose la réalisatrice, Marie Amashukeli. Des extreme close-up, là, vraiment des gros plans très, très larges. Pas très larges, mais en tout cas très, très rapprochés, voilà. Puis le jeu aussi de la distribution, là, ben, surtout de Cléo, la jeune Cléo, là, qui je crois que c'est peut-être sa première expérience au cinéma, oui. Donc, qui joue tellement vrai. C'est toujours c'est ça, très hit or miss là, comme pratique de jouer avec des acteurs non professionnels, mais aussi que de prendre des enfants parce que là, ben. Tu ne veux pas créer un traumatisme chez l'enfant non plus. Donc, il faut qu'il y ait une certaine part de jeu. Mais en même temps, un enfant, ça joue lui-même, là, d'une certaine façon. La difficulté à jouer une autre personne, surtout de façon aussi constante de scène en scène. Donc, il y a une partie clairement d'authenticité où on voit que Cléo et l'actrice qui la joue est probablement... Le personnage ne doit pas être très éloigné de sa propre personne, mais il y a des scènes quand même hautement dramatiques qui fait que c'est là que ça passe ou ça casse. Puis ici, ben ça passe. Je suis pas le plus grand fan justement de l'utilisation des acteurs non professionnels, mais ici, ça marche complètement. Puis l'authenticité, on la sent. C'est ça, dans le style de réalisation aussi, on nous tient pas trop par la main, même si c'est une histoire assez linéaire. Tu comprends que... Ce qu'on voit, c'est triste, mais c'est quand tu réfléchis à la situation que c'est encore plus triste. Tu sais, justement, ça arrive à cette période critique-là, 6 ans, 7 ans, là, ce qu'on appelle un mélange d'anxiété, de séparation, mais aussi d'être un peu le centre de son propre univers. Tu sais, les enfants, évidemment, quand tu n'as pas de frères et sœurs, ben tu es pas mal toujours au centre de l'attention. Puis là, ben en retournant voir Gloria dans sa famille... Ben, elle se rend compte que Gloria aussi, elle a des enfants. Elle a son fils César, sa fille, je me souviens plus de son nom exactement, mais là, une nouvellement grand-mère. Donc, il y a un bébé aussi dans tout ça. Puis un bébé, ça demande beaucoup d'attention. Donc, Cléo se rend compte que, ben, là, elle n'est plus le centre de l'attention. Puis elle aime pas vraiment ça, ne plus être le centre de cette attention-là. Elle veut attirer l'attention de Gloria, retrouver un peu le lien particulier qu'il avait tissé en France. Puis, ben, elle ne retrouvera pas ce lien-là parce qu'elle est dans sa famille maintenant. Puis c'est Cléo, l'invité, entre guillemets, ou la personne qui cadre pas dans cette nouvelle réalité familiale-là. Fait que c'est vraiment... C'est un peu crève-cœur à regarder parce que tu sais tout le long que ça va mal finir pour Cléo. Pour Gloria, en théorie, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec l'hôtel. On ne sait pas trop comment va se passer son retour, justement, dans sa famille. Mais, évidemment, les autres enfants ne portent pas Cléo nécessairement dans leur cœur parce qu'ils la portent un peu responsable du fait que leur mère a été absente pendant de très longues périodes de leur vie pour aller chercher de l'argent, justement, en France. C'est ça. Ça touche beaucoup de petites subtilités de la vie, puis tu sais, des vraies situations, des vraies subtilités qui sont pas plus grandes que nature, qui sont vraiment très, très réalistes et puis qui sont jouées de façon réaliste aussi. Là, c'est, je pense que c'est la grande différence. Il n'y a pas de mélodrame, à mon sens. Là. Ça aurait quasiment pu être un documentaire, je crois, même si c'est vraiment pas filmé comme ça. C'est très artistique. Il y a des transitions aussi avec du cinéma d'animation, des scènes, beaucoup de non-dits. C'est vraiment un film très, très riche, mais quand, sur le coup, peut-être, oui, on les remarque, ces points-là, mais c'est vraiment avec le temps que le film il grandit en nous. On y repense, puis là, on est comme « Ah oui, c'est vraiment pas facile comme situation. » Puis, tu sais, il y en a pas de bonne réponse ou de bonne finalité à cette histoire-là. T'sais. Tout le monde va être un peu triste au final. Puis c'est un peu ça, la vie. C'est rare qu'on ait la situation ou la scène finale d'un film d'Hollywood où tout le monde finit bien, puis tout le monde est donc une meilleure personne à la fin de tout ça. Ben oui, on sent une évolution ici dans tout le monde. Évidemment, Cléo qui apprend à la dure à grandir rapidement. Gloria aussi qui est un mode de vie français qui ne le déplaît pas nécessairement, mais qui est quand même... et pas ce à quoi elle aspire éventuellement. Elle veut pas briser le cœur de Cléo. Il faut faire attention. Tu sais, il y a plusieurs paramètres comme ça. Puis c'est ce que j'ai aimé, qu'on nous gave pas nécessairement d'un point de vue ou de l'autre. Tu sais, on regarde ça à la fois un peu détaché parce qu'on prend pas trop position, mais à la fois tellement proche, tellement dans leur intimité que ça en est... Que ça en est un peu gênant par moment. Là. C'était vraiment particulier comme visionnement. Puis j'ai compris un peu pourquoi on a donné le cercle d'or à ce film-là. Parce que c'est ça. N'importe qui je crois qui a eu des enfants va vraiment comprendre la tragédie derrière cette histoire-là. Si vous n'avez pas eu d'enfants, ben, vous pouvez sûrement associer ou relier les points. Mais tu sais, il y a de quoi de particulier qui se crée quand on devient parent, puis que, surtout envers les enfants, on devient plus sensible, on devient, tu sais, on sait ce que ça représente, l'effort d'élever un enfant, puis là, ben après ça, on compatit avec tous ceux qui font cet effort-là aussi, mais non, qu'on remarque pas nécessairement quand on n'a pas d'enfant. Bref, je vous conseille vraiment ce film-là. Il s'est promené dans quelques festivals, mais tu sais, il n'y a pas eu nécessairement de buzz autour. Si ce n'est ici au FCMS. Moi, je vous le conseille vraiment. Pour vrai, là, il est relativement court. C'est 1h23, donc ça passe quand même assez vite. Il n'y a pas de longueur. Il y a vraiment des bonnes interprétations, une bonne direction artistique, un beau message malgré toute la tristesse qui vient avec. Bref, allez voir ça à Ma Gloria. Ça prend l'affiche ce week-end, encore une fois, à la Maison du cinéma. Je vais terminer ce tour-là avant qu'on parte en publicité avec un documentaire... qui est en fait la partie 2 d'un documentaire. Là. C'est le documentaire Malartic, produit par l'ONF de Nicolas Paquet, qui, donc lui, avait fait un documentaire là, il y a une dizaine d'années, là, j'ai plus le nom devant les yeux, mais qui avait documenté, c'est ça, donc la réouverture de la mine d'or à Malartic, là, qui se trouve pas trop loin de Val-d'Or en Abitibi, et puis surtout de l'expropriation là, de plusieurs citoyens et citoyennes qui étaient sur le lieu de la mine. Donc, on a déplacé des maisons, on a changé un peu la dynamique de ce village-là qui était aussi sur le respiratoire artificiel là, parce que la mine avait cessé ses opérations en grande partie pendant longtemps. Bon, c'est les villes minières, c'est des villes un peu artificielles. 90% des gens qui sont là, ben, c'est des travailleurs de la mine. Souvent, même les compagnies minières qui vont ouvrir des services, que ce soit des restaurants, que ce soit des épiceries et tout, ils vont financer en grande partie les ouvertures de commerce, créer un peu de vie dans les villes. Puis quand ces compagnies-là ben, ont puisé ce qu'ils avaient à aller chercher, ben ils quittent, puis c'est ça, la ville, les citoyens se retrouvent avec rien. Souvent, ça mène à la fermeture complète des villes. C'est arrivé beaucoup dans le Nord, au Saguenay, en Abitibi aussi. Des fois, les citoyens restent. Puis là, ben, ils sont restés assez longtemps pour que la mine soit réouverte finalement aux alentours de 2010, là, où... on a trouvé un nouveau procédé pour extraire de l'or, puis il restait encore de l'or là-bas. Donc, c'est une des plus grosses, sinon la plus grosse mine à ciel ouvert au Canada. Une mine, évidemment, là, une mine d'or, là, littéralement. C'est très lucratif pour la compagnie qui la possède. Et en théorie, ça devrait être lucratif pour la population locale. Puis ce documentaire-là, donc cette deuxième partie-là, ben suit, on est 10 ans après, là, justement, 10-15 ans après l'ouverture, la réouverture de cette mine-là. Puis on regarde, bon, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la population qui s'est fait exproprier, est-ce que elle apprécie maintenant d'être dans cette ville-là qui, en théorie, est supposée s'être réanimée, réactivée, mais qui, en pratique, c'est pas vraiment ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le fun de vivre à côté d'une mine à ciel ouvert? La réponse est évidemment non, parce qu'il y a plein de problèmes de sécurité. Là, on apprend évidemment que la compagnie là, qui possède cette mine-là ben, a eu plusieurs amendes comme quoi elle ne respecte pas soit des conditions environnementales, soit juste l'espèce de bon voisinage. Là. Donc, il y a des dynamitages ou de la poussière qui revole chez les voisins. Vous irez voir des photos là, sur Google de Malartic de la ville et aussi de la mine. Là. Vous allez voir que il y a comme 20 mètres là, qui séparent le début de la mine et les premières maisons. Là. C'est vraiment une mine à côté de la ville. Là. C'est pas OK, elle est à 5 km de la ville, on entend des trucs ici et là. Non, elle littéralement était la mine était où le village était, puis on a déplacé le village à côté pour creuser pour les minerais d'or. Donc c'est vraiment particulier. J'ai hâte de passer dans ce coin-là pour aller le voir parce que moi j'aime ça ces endroits-là un peu fascinants où il y a des choses pas possibles qui se passent. Là. Justement, des villes de plusieurs millions d'habitants en plein milieu de la Russie, par exemple. Ou des endroits tellement éloignés où Fermont, son mur, il y a une mine là-bas aussi. T'sais, c'est des endroits qui me fascinent un peu, qui posent aussi évidemment plusieurs questions sur l'intervention humaine dans la nature, et puis qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Bref, c'est vraiment un documentaire très intéressant qui, le réalisateur, là, ben évidemment, on sent qu'il n'est pas nécessairement pour l'exploitation de minières, là, au dépend de la qualité de vie des citoyens, évidemment. Il n'est pas nécessairement contre non plus. Là. Le message est moins environnement et plus, je crois, justement, de bon voisinage, de voir comment la population... Est-ce que la population est contente d'avoir cette mine-là à côté? On apprend notamment que plusieurs familles... T'es indemnisé selon ta proximité avec la mine, puis c'est des indemnisations là, qui datent de 2010, 2012, 15, je ne sais plus trop quoi, jusqu'en 2027. Là, c'est comme 15 ans d'indemnisation. Donc, on comprend que si tu peux indemniser chaque personne, on ne sait pas exactement c'est quoi le montant d'indemnisation, mais on comprend que c'est une grosse industrie puis que si tu peux te permettre d'indemniser 2-3 000 citoyens pendant 15 ans puis de faire des profits quand même, on comprend que c'est du gros cash là, qui est brassé là-bas. Et puis, avec gros cash, vient en théorie grosse responsabilité, si on veut. Et la compagnie ne les respecte pas tant que ça, ces responsabilités. Donc, on veut mettre en lumière un peu ça, là, les déboires de la compagnie. On veut mettre un peu en lumière c'est quoi la situation d'être dans une ville minière, la particularité de tout ça. Et aussi, il y a une réflexion sur l'avenir de... Ben, regardez, là, quand la première mine a fermé, le village est devenu mort. Là. Vous savez que c'est ça qui vous attend quand il n'y aura pas de minerai de fer. Puis le film se termine sur une très bonne note, selon moi, même si c'est très triste, parce que la même compagnie qui possède la mine de Malartic vient d'acheter une mine, la mine justement qui faisait rouler Murdochville en Gaspésie. On sait que Murdochville s'est tombé un peu à l'abandon depuis la fermeture de la mine. Et puis là, ben, le film se termine où le réalisateur va rencontrer la mairesse de ce village-là. Puis il dit, ben, comment est-ce que tu entrevois ça, toi, l'avenir? Puis évidemment, l'avenir est radieux. Oui, ça va ramener le monde, ça va refaire vivre la ville et tout. Puis quand on voit l'exemple de Malartic où là, ça n'a pas fait revivre la ville, que ça a causé plus de nuisances qu'autre chose, ben c'est ça, il y a comme un décalage entre ce que la compagnie minière propose et c'est quoi la réalité. C'est un décalage qui semble évident à mon sens, là, mais tu sais, qui c'est plein de fausses promesses qui ne sont pas nécessairement réalisées, ou plutôt des profits qui ne sont pas, qui vont pas vers les bonnes personnes. Ça devrait être le village qui s'enrichit avec ça, puis finalement, ben, et surtout la compagnie là, qui s'enrichit avec ça. Le village, oui, a des taxes foncières ou des indemnisations, des trucs comme ça, mais tout est temporaire. Là, une mine, quand il n'y a plus de minerai, ben, c'est ça, la mine se ferme. Donc, c'était vraiment très intéressant. C'était très bien réalisé aussi. Là, il y avait plusieurs très beaux plans de la ville qui montrent justement cette proximité-là et les problèmes que ça peut causer. Il y a des rencontres avec des juristes aussi, là, donc justement pour savoir... les conditions qui ne sont pas respectées, savoir un peu justement c'est quoi l'industrie minière aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est... On nous vend ça un peu comme l'avenir, puis c'est vrai que le Québec est quand même riche. Plus on monte dans le nord, plus il y a des minerais précieux, mais c'est ça, à quel point est-ce que ça profite à nous et non pas à l'entreprise privée? Juste donner un exemple, la compagnie qui a racheté la mine à Malartic, puis qui je pense engendre des profits d'une couple de milliards par année, ils l'ont payé 50 000 $ là, au début des années 2000 ou au milieu des années 2000. Et comme c'est pas normal que, pas nécessairement que ce soit pas nationalisé, là, c'est sûr que le Québec peut-être qu'il pourrait essayer de tirer son épingle du jeu là-dedans, mais c'est pas normal que tu vendes une compagnie qui vaut plusieurs milliards 50 000 $ là, tu sais, puis que ce soit pas... Je sais pas, ce soit pas peut-être le gouvernement qui légifère un peu plus là-dedans ou qu'il n'y ait pas justement ce respect des règles-là ou qu'il y ait un respect des pénalités tellement stupides que il n'y a pas d'incitatif pour la compagnie de vraiment apporter des changements au niveau du contrôle de qualité environnementale ou de qualité de vie des habitants. Bref, c'est ça, ça remue beaucoup de choses, même si... Tu sais, au final, à part le message d'une roue qui tourne ou que ça s'en va pas justement en s'améliorant, tu sais, il n'y a pas nécessairement de grosse enquête à savoir justement qui sont les coupables ou tout ça. Là, je pense que peut-être que la position était plus claire dans le premier documentaire du réalisateur. Mais j'ai vraiment apprécié ça. C'est ça, ça montre un peu... là. Évidemment, là, l'espèce de combat, de lutte citoyenne envers l'entreprise privée. Pas plus tard qu'hier, à Infoman, ils montraient justement là, une compagnie privée d'électricité qui veulent installer des éoliennes et puis produire de l'hydrogène en Mauricie, je crois. Et puis la population, évidemment, qui n'est pas nécessairement d'accord avec tout ça. Donc c'est ça, c'est des luttes un peu à refaire. Là. C'est dans l'industrie minière, des fois c'est dans l'industrie électrique, bref. C'est ça, un petit désengagement en quelque part, soit du politique ou des organismes qui légifèrent pour s'assurer que tout se passe bien, ce qui fait que c'est la population souvent qui est laissée à elle-même et qui doit contester tout ça. Et des fois l'initiative de certains juristes là, qui trouvent que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, le bras de fer avec l'entreprise privée qui a tellement d'argent que c'est très dur de faire bouger les choses. Bref, Malartic, très bon documentaire. Qui était de passage chez ça au FCMS, mais qui va être disponible probablement sous peu sur le site de l'ONF. Donc, Malartic de Nicolas Paquet. Ça sort en fait à Montréal aujourd'hui, là, mais c'est ça, il sort pas à Sherbrooke à proprement parler. Voilà, on s'en va en pause publicitaire. Au retour, je vous rementionne un peu là, Festin Boréal et Soleil Atikamekw qui prennent l'affiche ce week-end. Et puis on se laisse pour jusqu'à la semaine prochaine.
Un jour, je vais faire un film. J'ai écrit le script et dans le scénario il n'y a pas du tout de trajet.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis c'est ça, mentionnons au passage deux films qui vont prendre l'affiche ce week-end. Donc je vais commencer avec Festin Boréal parce que je pense que ça fait un beau pont avec le documentaire Malartic. Festin Boréal, c'est le nouveau film de fiction de Robert Morin qui questionne un petit peu peut-être la chaîne alimentaire, l'utilisation des ressources naturelles. Grosso modo, là, c'est l'histoire d'un orignal qui se fait chasser et qui meurt en plein milieu de la forêt. Et puis on observe le cadavre dépérir au fil des jours et des semaines et des mois. Donc, tous les animaux qui vont se nourrir à même ce cadavre-là. C'est la partie 1, si on veut, là, du film. La deuxième partie, c'est les humains ou les hommes qui vont détruire ou en tout cas qui vont couper des arbres pas trop loin d'où le cadavre est décédé. On comprend évidemment l'espèce de parallèle qu'on essaie de créer entre les animaux qui se nourrissent d'un autre animal, donc cette chaîne alimentaire-là, et le parallèle qu'on fait entre les humains et les ressources naturelles, donc l'utilisation. Tu sais, les arbres sont là, donc aussi bien l'utiliser. C'est ce que se disent les animaux qui vont dépecer le cadavre aussi, donc que ce soit des fourmis, des ours, des renards, bref. C'est ça, c'est vraiment un très, très bon film qui est cynique, évidemment, là, de Robert Morin, là, qu'on connaît aussi là, pour ses prises de position contre l'industrie forestière et très pro, justement, Première Nation, respect du territoire, respect de l'environnement et tout ça. C'est ça, c'est comme... c'est un film où il n'y a aucun dialogue, donc c'est vraiment juste... C'est quasiment un documentaire animalier, là, mais c'est on s'ennuie pas. Le film est juste assez long pour pas qu'on perde nécessairement de l'intérêt. Donc, 1h15, minutes, je crois. Puis c'est ça, il y a même des petites touches d'humour, là, comme on connaît Robert Morin, là, très cynique dans la vie, évidemment. Il lance quelques flèches ici et là, des flèches visuelles, mais quand même assez parlantes. J'en ai parlé là, il y a 2-3 semaines, donc je ne veux pas revenir sur tous mes arguments, là, mais c'est ça. Je trouvais que ça faisait un bon programme double avec Malartic, si jamais vous allez le visionner. Et puis un regard un peu cynique justement sur notre utilisation des ressources. Allez voir ça, Festin Boréal. Et sinon, il y a Soleil Atikamekw, donc qui était de passage au FCMS, mais qui là prend officiellement l'affiche ici. Je vous rappelle là, que ça suit 5, je crois, autochtones qui... sont retrouvés sans vie, noyés dans un lac de la réserve de Madawan. Et puis, des deux Blancs aussi là, qui se trouvaient sur les lieux du crime, mais qui n'ont jamais été accusés. Et donc, on suit le film allié un peu documentaire et fiction et suit la famille. Suit en parallèle, ce sont les membres de la famille de ceux qui sont décédés, qui essaient de faire... la lumière sur les circonstances qui ont mené au décès. On se rend compte que c'est peut-être pas des noyades finalement, mais c'est peut-être autre chose. Mais évidemment, la police, le film se passe en 1977, donc la police est relativement réticente à vouloir gratter le bobo un peu. Il n'y a pas de rapport d'autopsie. On se ferme un peu les yeux là-dessus, puis on se dit que ça va passer. Évidemment, ça va détruire plusieurs familles de la communauté. Et c'est le mélange documentaire et fiction vient là, c'est qu'on voit des extraits, des vrais témoignages de la famille. Et c'est joué de façon fictive par des fois des descendants aussi, là, des personnes qui sont décédées, mais sinon là, des acteurs qu'on voit peu quand même au cinéma. Donc, puis la réalisation est vraiment très particulière aussi. C'est un très beau film visuellement, très imaginatif aussi comme film. Puis on comprend que c'est ça, évidemment, le racisme systémique était... plus que jamais implanté dans la société justement dans les années 70, mais aussi relativement récemment parce qu'on apprend vers le milieu fin du film qu'il va avoir une deuxième enquête en 2016 et qui va donner rien de plus finalement que la première enquête. C'est ça, allez réécouter l'épisode d'il y a 2 semaines. Là, je m'entretenais aussi avec la réalisatrice là, qui nous présentait... justement, son approche, travailler avec la communauté, son approche visuelle aussi, de vouloir créer des plans non conventionnels et aussi peut-être le processus thérapeutique derrière tout ça pour mettre en lumière un peu cette injustice-là qui a marqué justement la communauté de Madawan. Donc, Soleil Atikamekw, moi, c'est un de mes films préférés de cette année, fait que je vous invite à aller voir ça. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour un peu là, des nouveautés de cette semaine. J'ai pas eu le temps de vous parler des nouvelles séries télé que je regarde. Là. Il y a Fallout qui est sorti. J'ai juste écouté quelques épisodes, mais c'est très, très bien. Il y a une nouvelle série québécoise aussi, In Memoriam sur Crave, c'est peut-être un peu moins bien. Puis c'est ça, peut-être que la semaine prochaine, j'aurai le temps de tout plugger ça à l'émission. Voilà, donc c'est ce qui conclut notre tour d'horizon. Merci beaucoup, je vous invite à aller voir les nouveautés de cette semaine. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode de Ciné-Histoire. Bon week-end!